France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. La France aurait pu arrêter le génocide de 94 au Rwanda, mais n'en a pas eu la volonté. Les mots d'Emmanuel Macron à quelques jours des commémorations des 30 ans du génocide contre la minorité Tutsi. Mots très forts et très durs pour la majorité mitterrandienne de l'époque. On entendra notamment le ministre Roland Lescure qui les trouve nécessaires pour avancer vers la réconciliation. Au menu également des informés ce soir. Emmanuel Macron qui parle JO. Il y a un plan B pour la cérémonie d'ouverture, mais le bord de scène reste le scénario le plus probable, dit-il. Et il vole au secours, on entendra Daya Nakamura, victime d'attaques racistes, mais qui a toute sa place, dit-il, dans une cérémonie. On ne sait pas si c'est celle d'ouverture ou de clôture. Au JO, les excuses également du bout des lèvres de Quentin Bataillon sur France Info ce matin. Le président de la commission d'enquête TNT dans la tourmente pour être allé critiquer Yann Barthès chez Cyril Hanouna. Question sur cette nouvelle génération politique. Et puis, fini les polluants éternels en France, sauf pour les ustensiles de cuisine. Les députés ont voté cet après-midi. Nouveau sujet de friction entre majorité et opposition. On se demandera si la majorité et les gouvernements en général sont parfois trop timides sur les questions écologiques. Nicolas Bastuc est là, journaliste au Point, autour de la table des informés. Paul Barcelone du service politique de France Info. Bonsoir. Et Bruno Cotrès, chercheur CNRS au CEVIPOF. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc le Rwanda et ces mots du président de la République. La France aurait pu arrêter le génocide de 94, mais n'en a pas eu la volonté. C'est ce qu'il dit dans une vidéo qui sera diffusée, alors qui est prévue pour être diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, mais dont l'Élysée a révélé la teneur. Dimanche commenceront à Kigali les commémorations 30 ans après ce génocide qui a fait 800 000 morts. 94 en France, c'était la gauche, François Mitterrand. Et la réaction de Roland Lescure, on va l'écouter, ministre délégué à l'industrie issu de la gauche lui-même, qui était ce soir l'invité politique de France Info.
Reconnaître, comme le président de la République l'a fait aujourd'hui, ce que la France aurait pu faire, ce que je dirais la France aurait dû faire pour éviter ce génocide est une reconnaissance extrêmement importante. Moi, elle me touche personnellement, non pas en tant qu'homme de gauche, de droite ou du centre, mais en tant que citoyen français. Parce qu'effectivement, pour aller de l'avant, il faut reconnaître les erreurs du passé. Et il y en a eu. Il y en a eu.
800 000 morts, la France aurait pu l'arrêter.
Mais bien sûr. En tout cas, je pense qu'il est temps de reconnaître notre responsabilité.
Voilà, Paul Barcelone, il va loin là, Emmanuel Macron.
Oui, c'est un pas de plus que fait le chef de l'État, qui est finalement dans la lignée de ses dernières déclarations, de ses dernières sorties, même depuis 2017 et son arrivée au pouvoir sur cette histoire de génocide rwandais. Je me souviens notamment en 2019 de l'ouverture des archives, il s'était rendu à Kigali dans la foulée. En 2021, ce rapport Duclert avait conclu à la responsabilité aussi des Occidentaux et de la France. Donc il y a à l'évidence un pas de plus. À un moment assez symbolique, parce que vous rappeliez le 30e anniversaire du génocide, Emmanuel Macron était invité à se rendre au Rwanda, et il n'y ira pas.
Il n'ira pas et il envoie...
Donc une vidéo, c'est ça. Il envoie Stéphane Séjourné et Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité. C'est intéressant de noter d'ailleurs qu'il est d'origine rwandaise, absolument, évacué par l'armée française, d'origine Tutsi. C'est un orphelin qui a été évacué.
Nicolas Bastuc, sur cette évolution du président de la République, quel regard vous avez-vous ?
Oui, le président Macron, déjà en 2021, au pied du mémorial de Kigali, avait reconnu la responsabilité de la France, ajoutant dans un génocide qu'elle avait tenté d'éviter. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, il dit tout à fait l'inverse, un processus criminel que la France aurait pu arrêter et elle ne l'a pas fait. Alors je crois que le président Macron...
C'est, quand je dis évolution, c'est plus que ça.
C'est plus qu'une évolution, même s'il ne s'aventure pas sur le terrain de la complicité, parce que la complicité, c'est une notion juridique, et ce n'est peut-être pas au président français de dire le droit et le droit pénal international. La complicité nécessitait une instigation ou la fourniture de moyens. Mais je pense que le président Macron a pris acte aussi des travaux universitaires très importants, menés notamment, notre confrère en parlait à l'instant, par Vincent Duclert, à qui d'ailleurs il avait confié une mission d'historien pour enquêter sur la responsabilité de la France. Et Monsieur Duclert a publié un livre il y a quelques semaines très important, La France face au génocide des Tutsis, le plus grand scandale de la cinquième, le grand scandale de la Cinquième République. Et je pense que Emmanuel Macron a suivi de près ces travaux qui disent de manière très clairement que la France avait tous les moyens intellectuels, diplomatiques, militaires, juridiques pour arrêter le génocide et par un aveuglement coupable, elle ne l'a pas fait. Et donc effectivement, comme le disait encore une fois notre confrère, c'est un cran supplémentaire, un pas supplémentaire qui est franchi. Peut-être non dénué d'une petite arrière-pensée politique. Il faudra attendre dimanche pour avoir l'intégralité de
préciser,
ce message.
Peut-être, préciser.
Oui, mais sans doute
quand
que...
Quand vous dites l'arrière-pensée politique.
Mais le président Macron tient peut-être là un grand discours à la manière, toute chose égale par ailleurs, que celui que Jacques Chirac avait tenu en 95 quand il avait évoqué l'irréparable commis par la France sous le régime de Vichy. Il y a en plus, même si c'est très vertueux de le faire, sans doute un petit coup politique derrière ça.
Vincent Duclerc, de parler déjà dans le rapport de l'aveuglement du président socialiste de l'époque, François Mitterrand, et c'est vrai que pour la gauche, Bruno Cotterêts, c'est un sujet extrêmement sensible et il y a une... Alors, Roland Lescure dit que c'est important pour avancer vers la réconciliation. Il faut avoir ça en tête.
Oui, clairement, ça fait 30 ans que les relations franco-rwandaises sont littéralement empoisonnées par effectivement cet aveuglement qui pourtant a déjà été souligné par différentes institutions. Un rapport parlementaire français en 2008 déjà disait qu'il y avait une sorte d'erreur de stratégie d'ensemble. Nicolas Sarkozy déjà lui-même en 2010 était venu sur le sujet, puis on vient de le rappeler effectivement Emmanuel Macron en 2021. Vous le soulignez, Bérangère Bonte, c'est effectivement une période qui est très douloureuse pour les socialistes. C'est 1994, c'est à la fin au fond du mandat présidentiel de François Mitterrand, et François Mitterrand effectivement dans l'imaginaire socialiste c'est toujours la référence principale. Donc on voit qu'on touche là à des éléments très importants de son bilan de politique étrangère, et je voudrais rejoindre effectivement ce qui vient d'être dit. Pour Emmanuel Macron, il y a effectivement à la fois la force de la conviction. Ça n'est pas la première fois que le président français vient sur des questions qui sont des questions mémorielles. Il s'était exprimé aussi sur l'Algérie, on s'en rappelle. Là, il est sur le Rwanda. Il avait eu l'occasion également à d'autres reprises de venir sur des éléments du passé de notre pays. Donc on voit que le chef de l'État est rattrapé par une dimension qui est toujours très importante dans la parole de nos chefs d'État, qui est de dire quelque chose sur les moments traumatisants et les éléments qui sont des éléments un peu, qui ne font pas l'objet, on va dire, d'une claire élément d'analyse par notre pays sur ces zones d'ombre.
En l'occurrence, là, c'est clair.
Là, c'est extrêmement clair. On attend effectivement le contenu quand même de son discours pour pouvoir vraiment...
Le contenu sera donc dimanche, vidéo diffusée par l'Élysée, qui faisait savoir aujourd'hui dans la journée le chef de l'État voulait insister sur l'importance du devoir de mémoire, et la transition est toute trouvée pour vous dire que dimanche, il n'ira donc pas à Kigali, même s'il est invité au Rwanda à l'occasion du 30e anniversaire de ce génocide. Il sera au plateau des Glières et... au mémorial de la maison des enfants d'Izieux. Là encore la mémoire, mais celle de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument.
Deux choses différentes.
Totalement. Allez, et on va revenir sur Emmanuel Macron et les Jeux Olympiques. Là, c'est totalement différent aussi. Juste après le Fil Info, 20h11, Stéphane Milhomme.
Joe Biden s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou 3 jours après la frappe qui a tué les 7 humanitaires d'une ONG américaine à Gaza. Le président américain prévient que son soutien à Israël dépendra de décisions concrètes pour protéger les civils du territoire palestinien. Il presse aussi le premier ministre israélien de conclure un accord pour un cessez-le-feu immédiat et toujours à Gaza. Près d'un mois et demi après la disparition d'Erwan, 18 ans, dans les Deux-Sèvres, un corps a été retrouvé dans une rivière à Montcoutant-sur-Sèvre. Rien ne permet à ce stade, selon le procureur de Niort, de dire s'il s'agit bien du jeune disparu le 11 février. C'était après une soirée en discothèque. L'Assemblée nationale interdit certains produits contenant des PFAS, mais épargne les ustensiles de cuisine. Après cette adoption à l'unanimité, satisfaction sur France Info du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, précise qu'une interdiction totale n'est pas possible. Les PFAS sont utilisés également pour des prothèses de hanches ou encore des combinaisons ignifugées à destination des pompiers. Les départements de l'Aube et de l'Yonne, toujours en vigilance orange face aux crues, mais une légère décrue est engagée dans le bassin de l'Armançon, selon le préfet de l'Yonne. Une quinzaine de routes sont toujours fermées à la circulation.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir d'une équipe olympique, Nicolas Bastuc du Point, Paul Barcelone de France Info, Bruno Cotrès du Cevipof, Emmanuel Macron donc était à la piscine ce matin, piscine olympique de Saint-Denis pour l'inaugurer. Vous y étiez, Paul Barcelone.
Oui, il faisait chaud.
C'est beau.
Oui, c'est beau, mais il est important de savoir, mais on va en reparler, que les épreuves de natation, les épreuves reines, hein, ça fait partie des sports phares des Jeux Olympiques, avec notamment les chances de médailles de Léon Marchand, je fais court, ne se dérouleront pas là, puisque la piscine est trop petite, 5000 places, et auront lieu à la Défense Arena à Nanterre. C'est un peu le couac, le raté de ce dossier-là, mais elle est belle, cette piscine, pour répondre à votre question.
Voilà, Philippe Poulnard, le rédacteur en chef de cette émission qui vous entend, me dit, fait 28 degrés au bord de la piscine, c'est vrai que
j'ai
c'est chaud.
J'ai payé pour le savoir.
Allez, on est obligé de faire le petit incident plongeur, parce que ça a fait le régal, hélas, le pauvre, des Alexis réseaux Zonda. Sociaux, ça, voilà.
Bah, inauguration par Emmanuel Macron de ce centre aquatique olympique, et au moment de la démonstration par l'équipe de France de plongeon, qui disputera ces épreuves dans cette piscine, Alexis Jandard, qui est un des meilleurs Français en plongeon, médaillé aux championnats d'Europe, médaille de bronze aussi aux championnats du monde, a glissé, et d'ailleurs il s'est bien éraflé le dos, sérieusement.
Ouais. Voilà. Bruno Cotrès, je le vois désespéré.
C'est son moment de gloire aussi, quelque part. C'est la lumière.
Ouais, c'est terrible, c'est le stress.
Les télés en direct, le président de la République.
C'est dur. C'est très dur pour un champion.
C'est pas de mauvais augure. On va dire que c'est plus cocasse qu'autre chose.
Il vaut mieux glisser là.
Gravement blessé.
Il vaut mieux glisser là que pendant les épreuves.
Alors, en tout cas, plus sérieusement, Emmanuel Macron confirme avoir reçu Aya Nakamura, la chanteuse, en vue des festivités des JO. Aya Nakamura qui a été la cible d'attaques racistes lorsqu'on a appris qu'elle pourrait chanter Piaf. À la cérémonie d'ouverture. On écoute Emmanuel Macron.
Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Et donc elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française.
Édith Piaf.
Vous parlez d'Aya Nakamura. Édith oui, Piaf aussi.
Voilà, 9 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et quand il dit la plus streamée, des milliards de streams pour Aya Danioko, c'est son vrai nom, 27 ans. Marine Le Pen avait estimé que ça allait humilier les Français. C'est la première fois qu'il en parlait, Emmanuel Macron, Nicolas Bastuc.
Alors, c'est la première fois qu'il en parle publiquement, mais enfin, on sait maintenant que c'est lui qui a pris cette décision.
Je le confirme.
Où l'on découvre.
Attendez, décision, non, il l'a reçue, mais elle n'est pas.
Non, on ne sait pas. Pour le moment, on n'a pas les détails de la cérémonie d'ouverture qui seront dévoilés en temps et en heure.
Il y est très favorable.
Ouverture, clôture, il laisse un petit.
On découvre quand même.
Il n'est pas contre.
On découvre vraiment qu'on a un président de la République sous la cinquième qui s'occupe vraiment de tout. On a maintenant un président qui est coach. Coach, programmateur, producteur de spectacles, enfin vraiment, il est au travail.
Il sort de son rôle pour vous
Je ne sais pas. Bon,
qu'il puisse avoir envie d'imprimer quelque chose.
Oui, mais il y a aussi là encore, des arrière-pensées politiques. Éric Zemmour a dit qu'il voulait faire un coup politique pour soumettre les Français au grand remplacement. Moi, je suis juste d'accord avec la première partie de la proposition. Il a quand même voulu faire un coup politique. Dans quelques semaines, il y a des élections. Le principal rival et le favori, c'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement national. Et c'est une manière, finalement, de prendre le parti d'un métissage joyeux, un peu multiculturel, urbain, où on mélange le français, l'anglais, l'arabe, la langue des cités, etc., face à une France plus rance, nostalgique, qui craint pour le déclin de sa langue, de sa civilisation, qui a la nostalgie de la France éternelle et qui est un peu effrayée par ce que Jérôme Fourquet appelle l'hybridation. Donc c'est une manière un petit peu de s'attirer les grâces d'un électorat jeune, urbain et plutôt à gauche, disons-le.
Voilà. Bruno Cotrès, récupération, vous dites, honnêtement, les mots avaient été extrêmement dur, quoi. Marine Le Pen disait, elle chante pas français, elle chante pas d'ailleurs, elle chante pas étranger, elle chante on sait pas quoi. Enfin, et tout était à l'avenant.
Oui, je trouve
un moment
que
c'est son rôle aussi, non?
Mais bien sûr, d'abord, disons-le, dans toute personnalité politique, il y a un mélange toujours de conviction, de sincérité. Le chef de l'État a plusieurs fois manifesté aussi son envie de montrer qu'il était aussi un homme de sa génération. Il n'est pas si vieux que ça quand même, Emmanuel Macron, même s'il est au pouvoir depuis 7 ans. On se rappelle qu'à un moment donné, il avait invité la fine fleur de la techno à l'Élysée également. Ça lui avait été vertement critiqué. Ça avait déjà donné lieu à une polémique. Donc il y a un mélange de sincérité sans doute chez lui. C'est un homme de son époque et de sa génération. Mais en même temps, dans toute personnalité politique, il y a toujours le stratège qui essaye de faire des coups, du billard à 3-4 bandes. Et effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Si ça, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça lui permet de renvoyer une image qui est l'image de cette France plus moderne, plus ouverte. Et ça envoie en creux une image. Vous avez cité les déclarations de Marine Le Pen ou de ceux qui ont critiqué ce choix, une image un peu passéiste d'une France qui refuse de voir le monde ouvert dans lequel nous sommes. Et on se rappelle qu'il y a aussi la polémique sur l'affiche des Jeux Olympiques, qui critiquait beaucoup, le fait qu'il n'y avait pas la petite croix au sommet.
Au sommet des Invalides.
Voilà, des Invalides. Donc voilà, tout un ensemble de polémiques, mais l'essentiel pour
donc
le chef d'État.
Donc, il y avait du positif là-dedans.
Voilà, mais l'essentiel pour le chef d'État, c'est surtout que ces Jeux Olympiques soient réussis et qu'on assure le coup sur les questions de sécurité.
C'est ce que j'allais dire, la volonté d'Emmanuel Macron, au-delà de la polémique politicienne, pas très intéressante par ailleurs, mais et puis classique, tout est parti aussi de cette banderole montrée sur les réseaux sociaux par le collectif Les Natifs, qui est un collectif d'extrême droite, etc. Au-delà de cette polémique rance, on parle là quand même d'une star internationale, de quelqu'un qui vend des disques partout dans le monde, qui est aussi aujourd'hui un des visages de la France. Je referme la parenthèse. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est de réussir sa cérémonie d'ouverture et c'est de réussir ses Jeux Olympiques, aussi bien sur le spectacle qui sera donné, et c'est pour cette raison qu'il insiste sur le fait que le scénario privilégié pour la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, c'est sur la scène qui était le scénario numéro un envisagé et qu'il veut pas en démordre.
La scène S-E-I-N-E, hein, pas,
exactement,
pas une
scène. Malgré le retour de la menace terroriste, malgré des intimidations et des pressions russes. Donc il a envie de sauver ce moment où le monde aura les yeux braqués sur nous.
Bon, il s'inspire de François Mitterrand, qui en 89, avec Jean-Paul Goude, avait convié Jesse Norman à chanter la Marseillaise.
C'était une initiative relativement personnelle de François Mitterrand?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une séquence très réussie du bicentenaire de la Révolution. On se souvient de Jesse Norman dans cette belle robe bleu-blanc-rouge. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu le même message qui est envoyé.
Bon, en tout cas, il y a un plan B, et c'est la première fois qu'on l'entend aussi clairement. On en parle après le fil info. 20h20, Stéphane Milhomme.
Les suites de la grave chute cet après-midi sur le tour du Pays Basque. Jonas Vingegaard est finalement victime de fractures à une clavicule et aux côtes. Blessés également ses deux concurrents, Primoz Roglic, qui était leader, et Remco Evenepoel. Leurs équipes respectives ne prendront pas le départ demain. Le député socialiste Jérôme Guedj saisit le procureur de Montpellier pour des menaces de nature religieuse. Elles auraient eu lieu, selon l'élu, avant l'agression de Samara devant le collège Arthur Rimbaud. La mère de cette adolescente de Montpellier de 14 ans assure qu'elle avait prévenu que sa fille était victime de harcèlement depuis plusieurs jours. Samara est sortie du coma, elle doit être interrogée. Trois mineurs sont depuis gardés à vue. Alain Delon placé sous curatelle renforcée, c'est la suite de son suivi médical par la justice. La légende du cinéma, âgée aujourd'hui de 88 ans, était déjà sous le coup de la régime de sauvegarde judiciaire depuis janvier. C'était aussi une demande de ses trois enfants. La CGT, FSU et Solidaires ont trouvé leur mot d'ordre pour le 1er mai. Ils défilent principalement contre l'austérité, une annonce aujourd'hui au moment où le gouvernement entend faire des milliards d'économies dans les services publics, mais aussi sur les politiques sociales.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Paul Barcelone est là pour France Info, Nicolas Bastuc pour Le Point et Bruno Cotrez pour le Cevipof. On parle donc de ces JO, de cette cérémonie d'ouverture, donc de ce plan B. Quand même, enfin, depuis le temps qu'on tourne autour, que les ministres des sports et autres ont été interrogés de l'intérieur, là, il y a un plan B.
On s'est beaucoup interrogé, on savait pas. Il y a eu un moment, c'était non, après ça a été oui, et puis finalement, les QR codes ont été présentés aussi pour rentrer dans certaines zones de Paris annoncées par Laurent Nunez, le préfet de police de la capitale. Tout ça a été un peu anxiogène, pas vraiment su. Emmanuel Macron, ce matin, il a censé un peu clore le débat en posant les choses, ou en tout cas en disant le scénario numéro un, c'est bien de faire la cérémonie d'ouverture sur la scène, et si d'aventure une menace terroriste, par exemple, exemple, venait perturber ces plans, par définition, eh bien, on en activerait un autre. Tout cela dans le contexte, évidemment, du rehaussement de Vigipirate au plan, au niveau Moscou, urgence ouais. attentat après l'attentat le 22 mars à Moscou, ouais. En Russie.
Les inquiétudes venaient beaucoup du monde policier, notamment, que vous connaissez bien, Nicolas Bastuc. Quand même, en off, notamment, mais même on, un certain nombre de voix de grands flics disaient est-ce que c'est bien raisonnable, quoi.
Oui, à commencer par Céline Berton, la patronne de la DGSI, qui dit qu'il ne faut pas perdre de vue que l'on est face au retour d'une menace en lien, je la cite, avec des théâtres extérieurs. Donc, évidemment, allusion limpide aux événements, à l'attentat de Moscou et à cette branche afghane de l'État islamique.
Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a déjà en tête un peu plus que les autres de changer vraiment ce plan, Emmanuel Macron?
Je ne pense pas. Je pense
qu'il en parle comme ça aujourd'hui.
Il l'a dit de toute façon. Le risque zéro n'existe pas. Gérald Darmanin lui a emboîté le pas en disant que le renseignement n'est pas une science exacte. Bon, ils mettent le paquet. Hein. J'ai quelques chiffres là quand même. 45 000 policiers, 18 000 militaires en renfort, le RAID, le GIGN, des plongeurs, des démineurs. Il manque juste un sous-marin dans la Seine et on aura vraiment l'arsenal total.
C'est compliqué, ça.
Vous avez vu aussi que 1 million de personnes, tous les bénévoles, de l'athlète jusqu'au porteur de gourde, va faire l'objet d'un ce qu'on appelle un criblage, c'est-à-dire une enquête. Hein, il y a déjà 800 personnes, dont 15 fichiers S, qui ont été exclus des bénévoles potentiels, etc. Bon, c'est une gageure pour les forces de sécurité, mais ça va être magnifique. Je crois qu'on n'a pas vu depuis Louis XV une parade sur la Seine.
Il n'y en a jamais eu pour les JO. Hors stade.
Jamais vu. Oui. Pour les JO.
Hors stade, voilà. Ça n'a jamais été.
94 bateaux sur la Seine.
Mais c'est pour ça que la France y tient, bien sûr.
Devant 160 ouais. chefs d'État, ça va être somptueux. Mais effectivement, la menace est là, elle existe. Je pense qu'elle est dans toutes les têtes.
Ouais, alors à propos de menaces, il a aussi évoqué la Russie en des termes qui sont
assez flous.
Assez flou, mais...
En disant, je n'ai aucun doute, et l'expression « aucun doute » vient de lui, aucun doute sur le fait que la menace vienne de la Russie et que la Russie cherche à perturber l'organisation de ces Jeux Olympiques, notamment en des termes informationnels. C'est là où je dis que c'est un peu flou, on ne sait pas exactement... dans quel registre se situe Emmanuel Macron à ce moment-là, aussi dans le contexte de l'appel téléphonique hier soir qui a mal tourné entre Sébastien Lecornu et Sergueï Choïgou.
Les deux ministres de la Défense.
Voilà, ouais. Exactement, où les versions divergent et la Russie estime que la France serait investie, notamment les services secrets impliqués dans l'attentat du 22 mars.
Je crois qu'il faut juste quand même préciser qu'il n'accuse pas la Russie de fomenter des attentats contre la France.
Non, mais de cibler la France parce que la France organise les JO. C'est ce
et dire
c'est
qu'elle n'est pas prête, etc.
C'est pas nouveau. Il y avait déjà eu des ingérences russes pendant la campagne
présidentielle.
C'est ça, voilà. Donc c'est pas très nouveau.
Non, mais quand on dit informationnel, c'est de l'influence.
Je pense que c'est ça qu'il a en tête. On se rappelle qu'effectivement, dès son élection de 2017, le chef de l'État avait clairement mis les pieds dans le plat. La première fois qu'il reçoit Poutine à Versailles, dans une prise de parole où il répète il dit très explicitement qu'il sait qu'il y a eu une tentative, ou peut-être plus que des tentatives russes, d'influencer négativement sa campagne, de faire du piratage informatique d'une certaine manière. Donc on voit que c'est un thème sur lequel le chef d'État revient très régulièrement quand il s'agit de nous décrire quelle est la menace que fait peser la Russie sur la sécurité nationale française. Donc on n'est pas étonné. Je pense que le vrai enjeu pour le chef de l'État, on comprend bien que la position à tenir est pas évidente, c'est qu'il doit, comme chef de l'État, nous garantir que cette prise de risque sur la cérémonie, c'est-à-dire quelque chose d'exceptionnel qui va se passer sans aucun doute, une cérémonie d'ouverture sur la Seine, un spectacle dont le monde entier se rappellera pour très longtemps, de nous rassurer que ça va bien se passer et en même temps de ne pas élever le niveau d'inquiétude dans la population qui est important déjà, où tout le monde en parle, en disant est-ce que ça va bien se passer ces Jeux Olympiques.
Nicolas Bastuc, est-ce qu'on arrive à dire dans les rangs policiers à quel moment on ne pourra plus changer le plan? 15 jours avant, ce sera trop tard, la cérémonie d'ouverture. Parce qu'on arrive à timer ça.
Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que même si, à quelques heures de la cérémonie, une menace, un renseignement extrêmement précis et inquiétant arrivait aux oreilles des grandes oreilles, eh bien, on changerait les plans.
Enfin, on met au Stade de France.
Exactement.
Et sur le strict point de la menace terroriste, c'est Amélie Oudéa-Castéra, hier matin, invitée des 4 vérités sur France 2, qui disait il n'y a pas à ce jour de menace terroriste directe contre les Jeux Olympiques à Paris. Donc, il y a la volonté pour le gouvernement de à la fois dire on va maintenir cette image aux yeux du monde, cette cérémonie d'ouverture très grande, inédite, la scène, etc. Et la volonté de rassurer aussi les Français, la sécurité des Français en disant venez à ces cérémonies, venez sur les épreuves en toute quiétude.
Vous l'avez senti dans quel état d'esprit on a bien compris tout à l'heure que...
C'est une question toujours difficile, mais...
Non, mais voilà, quand il fait un déplacement JO au milieu des sujets qui sont si compliqués, c'est son moment, mais c'est pas que léger, parce qu'on l'a bien compris.
Non, mais d'abord, c'était la deuxième inauguration à laquelle il participait après le village olympique. Le centre aquatique, je disais tout à l'heure, il n'y aura pas les courses de natation, mais ça reste un des gros sites de ces JO. C'est à l'ombre du Stade de France, c'est un des deux seuls
qui a été construit. La grosse construction.
Voilà, avec la halle Porte de la Chapelle, il y a deux sites qui sortent de terre spécialement pour les Jeux Olympiques, donc ça a évidemment une incidence.
Et dans les temps,
de l'héritage, absolument, avec même un mois d'avance. Et puis il y a la question de l'héritage, cette piscine, ce centre aquatique, il va devenir une piscine de quartier rendue aux habitants en juin 2025. Et donc là, on est dans l'héritage, la trace qu'Emmanuel Macron veut laisser dans l'histoire.
Nicolas Bastic, vous vouliez compléter ?
Non, je disais que il faut pas jouer les Cassandres et affoler les foules, mais je pense que la ministre des Sports a tort de dire qu'il n'y a pas de menace spécifique. Clairement, les attentats de Moscou font monter d'un cran la menace, et ça n'est pas pour rien, comme il a été rappelé, que le plan Vigipérate est monté à son niveau maximum, urgence attentat. Donc il y a un risque, il est important. Et il est faux de dire qu'il n'y en a pas.
Mais vous avez raison, Bérangère, de dire que ces inaugurations sont des moments un peu singuliers pour Emmanuel Macron. Il en profite. D'abord, on sait qu'il joue beaucoup de la métaphore sportive. Ce matin, j'ai été installé à quelques rangs au-dessus de lui dans les tribunes, et j'ai bien vu qu'il a goûté, savouré ce moment, l'entrée avec une sono poussée à fond. J'ai eu l'occasion de le raconter sur France Info. Mais au bord du bassin, il l'a pas testé, mais il avait promis qu'il se baignerait dans la Seine. On verra. Il a pas testé le bassin ce matin, mais il a aimé ce moment, évidemment. Le tapis n'était pas rouge mais bleu, mais il en a profité et il profite de ces petits moments aussi.
Allez, on referme cette page et après le point sur l'info, on évoquera les ennuis, on va dire ça comme ça, de Quentin Bataillon et cette nouvelle génération à l'Assemblée, très attirée par les écrans et les télés. 20h30, le point sur l'info. Et bonsoir Edouard Marguet.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Joe Biden met la pression sur Benjamin Netanyahou. Le président américain prévient que son soutien à Israël dépendra des décisions concrètes pour protéger les civils dans la bande de Gaza. Il presse le premier ministre israélien de conclure sans délai un accord de cessez-le-feu, résultat d'un entretien téléphonique entre les deux hommes, le premier depuis plus de deux semaines. Au Rwanda, la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté, selon Emmanuel Macron, qui avait déjà reconnu en 2021 les responsabilités françaises dans le génocide de 1994. Le président qui fait donc un pas supplémentaire à l'occasion du 30e anniversaire du drame. L'Assemblée nationale adopte en première lecture une loi pour limiter la diffusion des polluants éternels, texte controversé puisque les ustensiles de cuisine sont exclus de cette loi. Suite à la mobilisation des industriels, les élus écologistes dénoncent la victoire des lobbies. La ministre de l'Éducation annonce une inspection flash dans un collège de Montpellier. Nicole Belloubet veut savoir ce qui s'est passé au sujet de cette agression d'une élève de 13 ans passée à tabac à la sortie de cours, malgré des alertes de sa mère. Alain Delon, placé sous curatelle renforcée, placement décidé par la justice, par le tribunal de Montargis à la demande des trois enfants de l'acteur âgé de 88 ans, qui se trouve dans un état de santé dégradé, selon là encore ses enfants. Jonas Vingegaard souffre de plusieurs fractures à une clavicule et aux côtes. Le Danois est à l'hôpital après avoir lourdement chuté sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque, comme deux autres stars du peloton mondial, à savoir Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Les trois hommes ont évidemment abandonné la course.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie de Paul Barcelone de France Info, service politique, Bruno Cotrez, chercheur CNRS au CEVIPOF, et Nicolas Bastuc, rédacteur en chef au Point. C'est une maladresse et je le regrette. Quentin Bataillon avait réservé ses premières déclarations à France Info et à Céline Bailly-Darcourt après cette tempête qu'il a déclenchée, le député Renaissance, président de la commission d'enquête sur les fréquences TNT. Tempête donc depuis 48 heures après ses propos à l'égard de Yann Barthès, tenu dans l'émission d'un autre auditionné de sa commission, un des principaux d'ailleurs, Cyril Hanouna. On écoute Quentin Bataillon.
Les auditions sont terminées. Elles se sont arrêtées le 28 mars. Pendant ce temps d'audition, je me suis imposé moi-même une période de réserve, c'est-à-dire de ne pas aller sur les médias conventionnés par l'ARCOM, oui, au titre de la TNT. Cette réserve, rien ne m'obligeait à me l'imposer. D'ailleurs, je remarque qu'aucun autre membre de la commission d'enquête ne se l'imposait. Si je ne vais plus dans les médias qu'on a auditionnés, comme vous l'avez dit juste avant, on a auditionné tout le monde. J'ai auditionné l'ensemble des chaînes. Donc à ce moment-là, il ne faut plus du tout aller sur les chaînes de la TNT. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je serai le seul Français qui n'aura pas le droit d'aller sur les plateaux de télévision.
Il me semble qu'on est au cœur du sujet. Et oui, il est le seul Français, mais oui, il est le seul président de cette commission aussi, Nicolas Bastuc.
C'est très warholien, hein. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Andy Warhol, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité. Et bien, Quentin Bataillon a le droit à son quart d'heure de célébrité.
On serait peut-être passé là quand même de ce...
On parlait tout à l'heure de sous-marin, je crois que là vraiment on touche le fond. Et il termine vraiment de saper le travail d'une commission qui, disons-le, était carrément clowneste et surréaliste. Et bon, Quentin Bataillon, c'est un gentil garçon, il a une bonne tête. Il a démarré sa carrière chez Big Malion. Et il a fait ensuite l'école des attachés de presse, qui est une très bonne école, mais pour devenir attaché de presse, qui est un métier très respectable, pas pour devenir parlementaire.
Il y a énormément de professions au sein de l'Assemblée. Ça, pour le coup, c'est une des caractéristiques du bataillon, si je puis dire, macroniste de 2017, d'ailleurs.
Vous parliez d'une tempête dans un verre d'une tempête, j'ajoute, dans un verre d'eau, mais c'est une tempête dans un verre d'eau qui est assez symptomatique, quand même, d'une nouvelle classe de politique fascinée par les paillettes, les starlettes, le buzz, la com, Cyril Hanouna, chacun son mauvais goût, d'ailleurs. Et on se demande vraiment... Dans quelle époque on vit.
Mais c'est fou quand même cette phrase. Je serais le seul. Ah bah comment ça? Je serais le seul qui n'aurait pas le droit d'aller sur les plateaux de télévision.
Oui, ce qui est encore plus fou, c'est le début de la phrase. Je me suis imposé une période de réserve. C'est consternant. C'est-à-dire que nous,
est que le règlement de l'Assemblée nationale ne l'impose pas.
Non, bien sûr, mais c'est pas le sujet d'un député. Le sujet d'un député, c'est faire la loi. Numéro un, s'occuper des électeurs de sa circonscription et être le symbole de la représentation nationale.
Contrôler le gouvernement.
Contrôler le gouvernement, je me suis imposé une période de réserve. J'ai envie de dire, on s'en fout. Qui s'impose une période de réserve.
Bon, alors, Bruno Cotrez.
Non, mais c'est vrai, je trouve que la déclaration est quand même assez stupéfiante. Après, c'est vrai que c'est le symptôme, effectivement, d'une génération. Ça date pas de ces dernières années. Ça s'est construit progressivement. Mais le problème n'est pas vraiment qu'il soit allé chez Cyril Hanouna, c'est pas ça le fond du problème. Le problème, c'est quand est-ce qu'il y est allé. Lui dit le 28 mars, donc je peux y aller au début du mois d'avril. C'est quand même un peu gênant. Et c'est aussi le fait qu'il n'a pas été chez tous les, à ce moment-là, qu'il y a chez l'ensemble des acteurs qui ont été auditionnés par la commission d'enquête. C'est un peu ça le problème. C'est le fait qu'il est biaisé d'une certaine manière, son rôle éminent, qui est celui d'être la représentation nationale, en allant privilégier un acteur et en disant un propos qu'il regrette effectivement, mais en disant un propos qui est un véritable biais de ce point de vue-là, du jugement que... Donc effectivement, ça entache un petit peu les conclusions qui vont être tirées, effectivement, je rejoins aussi ce qui a été dit, de cette commission d'enquête, qui était une commission d'enquête un peu difficile, on va dire les choses comme ça, du point de vue de... À quoi ça sert? Comment elle a fonctionné? Quelles sont les conclusions qui vont en être tirées? Quelles sont les conséquences qui vont en être tirées?
Si on écoute bien ce qu'il dit, il dit je regrette d'avoir critiqué Yann Barthès, qui est un des auditionnés chez Cyril Hanouna. Mais en soi, pas de souci pour lui
d'aller sur ce plateau.
Mais si, mais...
Ou sur un autre, d'ailleurs.
Il est allé chez Cyril Hanouna, lui-même auditionné par la propre commission d'enquête qu'il préside, pour aller se moquer de l'attitude d'un présentateur télé, Yann Barthès, pour ne pas le nommer, qu'il venait lui-même, là encore, d'auditionner. Enfin, on voit bien que rien ne va dans cette affaire, mais surtout, ce qui est notable, c'est que ça a créé une certaine gêne autour de Quentin Bataillon, autour de la majorité présidentielle, dans un contexte au Parlement qui est déjà tendu pour les troupes d'Emmanuel Macron. Yael Braun-Pivet, dès hier, elle a dégainé un communiqué pour l'appeler
à son
devoir de réserve, pour lui rappeler un peu les règles, si j'ose dire, de bonne tenue. Et je serais pas très surpris qu'Emmanuel Macron n'apprécie pas forcément ce genre de comportement. Là encore, dans un contexte où Cyril Hanouna met en scène chaque soir sur C8 une forme de politique spectacle en recevant des personnalités de tous bords, plus ou moins contradictoires, plus ou moins contrastées. Je pense par exemple à Louis Boyard, aussi le député insoumis. Tout ça quand même, la politique bassement politicienne n'est pas très très intéressante, mais ça dit probablement quelque chose, effectivement, des pratiques de la nouvelle génération de députés.
Vous dites...
Même si je dis ça en ayant le même âge que Quentin
Bataillon.
Vous dites
avec un grand sourire. Voilà, je ne savais pas comment l'amener, mais nos auditeurs qui ne regardent pas sur le canal 27, mais qui vous connaissent, entendent bien que vous n'avez pas 75 ans. Et c'est bien de le souligner, mais il me semble pas, je sais pas, si vous diriez cette phrase, quoi. Je n'ai pas le droit, je suis le seul à ne pas avoir sur les plateaux de télé. En l'occurrence, vous y êtes.
Mais j'y suis, mais sans présider une commission d'enquête.
Mais vous n'êtes pas député ni président de commission d'enquête. Vous disiez, Yael Braun-Pivet lui a rappelé les règles de, je ne sais plus comment vous avez dit, de bienséance. Mais est-ce que ce n'est pas plus loin qu'il faut aller et se demander si aujourd'hui n'est pas venu le moment, avec tous les constats qu'on a faits, avec un Ruffin qui vient avec son maillot de foot, avec la tête d'Olivier Dussopt sur un ballon, enfin, il y a des comportements sous le pied d'un député, il y a quand même un certain nombre de comportements qui nécessiteraient peut-être de se dire, on a changé de génération, revoyons certaines règles. Par exemple, pas de prise de parole pour un président de commission tant que le rapport n'est pas rendu. Bruno Cotterêts.
Oui, c'est une règle qui apparaîtrait un peu évidente, effectivement, puisque comme président de commission, il va avoir un rôle éminent dans la conclusion, la finalisation, peut-être la rédaction, je ne sais pas, du rapport d'enquête. Donc c'est quand même un petit peu gênant que quelqu'un qui va tenir la plume d'un rapport d'enquête ou qui va le valider, qui va le relire.
Exactement.
C'est un peu gênant qu'il ait effectivement eu un biais sur un de ses jugements.
Alors, on lui interdit
dans
la parole
public.
Ou pas? Avant le rendu.
Je ne sais pas, je trouve que ça serait une idée qui me semblerait aller de soi-même, effectivement.
Ça peut choquer, hein, je veux dire.
Le rapport d'enquête va être écrit par le rapporteur de cette commission, qui est un adversaire politique de Quentin Bataillon, Aurélien Saint-Toul, qui est un député de la France Insoumise.
Et je précise juste qu'il lui a envoyé aujourd'hui une lettre en lui demandant de convoquer d'urgence le bureau pour s'interroger sur le statut du président lui-même, quoi.
Mais là, il y a une opportunité politique. De toute façon, cette commission d'enquête qui visait l'attribution des fréquences TNT, elle s'est déroulée aussi dans un climat ultra tendu politiquement entre un président de commission Renaissance, son rapporteur Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise. Donc ça a aussi joué évidemment sur l'atmosphère de cette commission, dans un contexte extrêmement tendu, notamment autour du groupe Bolloré, de ses acquisitions, le journal du dimanche, les audiences de CNews, celles de C8, celles de Cyril Hanouna sur TPMP, la féroce concurrence avec en access prime time l'émission quotidienne d'Yann Barthès sur TMC. C'est ce contexte-là aussi qu'il faut avoir en tête. Et malheureusement, je crois comprendre que Quentin Bataillon, le président de la commission d'enquête, est tombé dans cet engrenage-là.
20h41, le fil info, Stéphane Milhomme.
Les États-Unis veulent voir une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire entrant à Gaza. C'est le communiqué ce soir de la Maison-Blanche, 3 jours après la mort de 7 humanitaires d'une ONG américaine à Gaza, après une frappe israélienne. Joe Biden demande à Benjamin Netanyahou de conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Le soutien américain dépendra de décisions concrètes concernant les civils de ce territoire palestinien. Un porte-parole du groupe SEB rassuré que les ustensiles de cuisine ait été retiré au dernier moment de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée. Le texte aujourd'hui vise à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS ou polluants éternels. L'entreprise affirmait qu'une telle loi menacerait les milliers d'emplois de ces deux sites en France qui fabriquent des poils anti-adhésifs. Salim Berada, surnommé le violeur de Tinder, va faire appel de sa condamnation. Le 29 mars, la Cour d'assises de Paris le condamnait à 18 ans de réclusion criminelle pour avoir violé ou agressé sexuellement 15 femmes rencontrées sur des réseaux sociaux. Et puis Ford retarde de 2 ans la production de ses véhicules SUV électriques au Canada. Le constructeur automobile américain avance qu'il entend profiter des dernières avancées en matière de batterie, sortie des premiers véhicules reprogrammés à 2027.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Nicolas Bastuc est là pour le point, Paul Barcelone pour France Info, Bruno Cotresse pour le CVPOF. On parle donc de cette commission des fréquences TNT à l'Assemblée nationale avec son président donc qui fait beaucoup parler et ses questionnements sur ces jeunes députés, on va dire cette nouvelle génération qu'on a vu évoluer, qu'on voit clairement évoluer. On en parle très souvent. De quand vous datez ce mouvement-là, il y a eu toute une nouvelle génération en 2017, mais on n'en était pas encore à ce dont on parle là ce soir, Nicolas Bastuc.
Mais vous savez, dans les entreprises, on dit que la clé du succès, c'est le recrutement. Eh bien, moi, je date ça dès 2017.
Mal fait, le recrutement ?
Au moment du recrutement, visiblement, des parlementaires qui ne sont pas au niveau et qui n'ont rien appris et qui sont complètement à côté de la plaque, parce que c'est au-delà de ça nous fait un petit peu rire, etc. Bon, il a quand même un peu critiqué Mezzo Voce, d'abord son rapporteur, qui effectivement va tenir la plume. Mais cette commission n'a aucun sens. Ce n'est pas elle qui, de toute façon, choisira qui aura une fréquence sur la TNT ou pas. Et elle s'est interrogée pour savoir combien gagnait Cyril Hanouna. Est-ce que la veste polaire de Barthès était de bon goût ou pas de bon goût? Est-ce que les programmes sont racoleurs ou pas? Mais il y a des problèmes autrement plus sérieux, y compris d'ailleurs dans le domaine des médias. L'audiovisuel, c'est une industrie. Les médias traditionnels sont bousculés aujourd'hui par les GAFA. Vous avez peut-être vu que le Forum économique mondial a dit que la désinformation était le problème numéro un devant le réchauffement climatique, devant la guerre et l'inflation. Mais la vraie désinformation, c'est-à-dire celle que les cybercriminels vont mener à coup d'intelligence artificielle.
Donc il y a des sujets importants. Cette commission aurait dû se pencher là-dessus plutôt.
Mais bien sûr, évidemment.
La colère de Yann Barthès.
Évidemment, ça n'est pas le rôle d'une commission parlementaire de s'interroger sur la couleur d'une veste d'un animateur et sur le bon goût ou non de programmes de prime time.
Rapidement l'un et l'autre, peut-être sur cette dérive, et puis on va passer au dernier sujet.
Effectivement, ça remonte sans doute avant, parce qu'on avait souligné que des personnalités politiques, même entre guillemets de l'ancien monde, avaient joué le rôle, le jeu au fond de ces émissions qui sont à mi-chemin entre des émissions de société, de divertissement, avec une dose de politique dedans. Mais effectivement, ça répond pas aux questions fondamentales que tout le monde se pose. Les vraies questions fondamentales que tout le monde se pose, c'est effectivement à la fois les conditions du pluralisme politique dans l'espace médiatique. On a le privilège de vivre dans des sociétés démocratiques, mais il y a des sujets quand même qui se posent sur le pluralisme de l'espace démocratique, de l'espace des discussions, la question du financement. Enfin voilà, il y a des tas de sujets. Il y a l'intelligence artificielle avec des développements qui sont assez vertigineux et potentiellement absolument effrayants, de créer des chaînes d'information pratiquement à partir de rien et d'endoctriner les gens, de diffuser des fausses nouvelles. Donc voilà, il y a des sujets extrêmement lourds qui arrivent. Et là, effectivement, on se retrouve sur des sujets qui sont des sujets très, très, très marginaux. C'est pas inintéressant de savoir comment s'habille un célèbre journaliste ou présentateur, ouais. Mais c'est pas quand même le cœur du sujet.
Le mot de la fin pour le plus jeune du trio, mais globalement, sur ce que vous sentez, de la façon dont c'est perçu, est-ce que c'est perçu justement comme une espèce de mouvement de génération?
Je pense que c'est un dérapage ou pas, mais je pense que des personnalités particulières qui, quitte à faire des erreurs ou alors des coups d'éclat à l'Assemblée ou dans la classe politique, il y en a toujours eu, mais il y a probablement, oui, eu un changement de génération 2017, on en a déjà beaucoup parlé avec l'arrivée de nouveaux députés qui n'étaient pas des professionnels de la politique. Changement qui a été plutôt confirmé d'ailleurs en 2022, même si certains visages ont été renouvelés et que celui de Quentin Bataillon est un des nouveaux visages. J'observe d'ailleurs qu'il avait déjà eu une expérience puisqu'il était aussi conseiller de Franck Riester avant en cabinet ministériel.
Allez, on referme cette page et on va évoquer donc ces PFAS, on dit PFAS, même si ça s'écrit PFAS. Les députés ont approuvé en première lecture cet après-midi l'interdiction des polluants éternels, donc ces PFAS, sauf pour les ustensiles de cuisine. Et ça a été sorti du texte à la demande du gouvernement et c'est là qu'est le sujet. Mais ça y était au départ dans ce texte porté par les écologistes qui l'ont présenté ce matin par la voix du député de Gironde, Nicolas Thierry.
Je vous propose d'agir dès 2026 sur quatre usages pour lesquels nous savons faire autrement. Les ustensiles de cuisine, les cosmétiques, le fart et les textiles d'habillement. Certains parmi vous me rappelleront qu'il y a un projet de restriction des PFAS qui est en cours au niveau européen. Ce projet européen est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je le soutiens, mais je ne m'en contente pas. Vous le savez, la procédure sera longue. Lorsque l'ECA aura terminé son travail en 2027, la proposition de restriction sera soumise aux États membres. Qui peut prédire aujourd'hui quelle sera la position de chacun de nos partenaires européens à cette date ? Sur ces sujets, je le dis ici pour conclure, chaque mois, chaque année perdue se compte en vie humaine. Merci pour votre attention.
Voilà, pas une minute à perdre, dit le rapporteur Europe Écologie Les Verts du texte, sauf que la majorité a réussi donc à exclure ce qui est évidemment l'usage le plus grand public, ces casseroles et autres ustensiles de cuisine. Et on va le dire, sous la pression des industriels, Seb, pour ne pas le nommer, qui dit c'est 3000 emplois qui sont menacés si on fait ça. Bonsoir Gaël Fortin.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en cancérologie de formation, vulgarisateur scientifique, on peut dire ça comme ça. Roland Lescure, le ministre délégué à l'industrie, qui était l'invité politique de France Info ce soir, dit « il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent la dangerosité des PFAS inclus dans les poils Tefal ». Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qu'on sait de la dangerosité ?
Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, donc ces PFAS, il y en a différents types. Il y a des types mono et des types poly. Ce qu'on trouve maintenant dans les poils, par exemple en diadésive, c'est ceux qui sont poly. Et le consensus scientifique là-dessus, c'est qu'il y a des risques réels que ces substances-là soient toxiques. Mais surtout, ces substances poly, quand on les produit, quand on les utilise, elles rejettent des substances mono. Et ces mono-PFAS, ben, eux, ils sont cancérogènes et leurs risques sur la santé sont avérés. Donc en réalité, le consensus scientifique, il montre que ces substances-là, globalement, tous ces PFAS-là, ils sont dangereux pour la santé humaine.
Voilà, donc c'est pas tout à fait exact ce qu'il dit. À minima, vous, ce que vous dites, j'imagine, c'est avant d'autoriser une molécule, on se pose d'abord la question de savoir si elle est bonne ou pas pour la santé, et c'est pas dans l'autre sens, quoi.
Exactement. Là, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait des dizaines d'années, des lanceurs d'alerte, des dizaines d'études qui montrent que oui, il y a une toxicité pour ensuite engager le processus pour interdire ces substances, alors qu'en fait, il faut le faire dès le départ. Quand on sait clairement qu'une famille, comme la famille des PFAS, il y a énormément de composés qui sont toxiques pour la santé et pour l'environnement, il faut agir à la source, et c'était l'objectif du projet de loi dans sa version d'origine.
Les alternatives, elles existent, notamment sur ces ustensiles de cuisine, pour essayer de se projeter dans la problématique de Seb. Finalement.
Oui, tout à fait. Il y a déjà des poils qui existent depuis des années et c'est ce qui a été utilisé notamment avant l'arrivée du téflon, des poils en inox, des poils en fer qui fonctionnent très bien sans avoir besoin
d'un revêtement antiadhésif. Avec les mêmes qualités, qui accrochent pas.
Pour ce qui est par exemple tout ce qui est poils en fer, oui, ça fonctionne très bien sans antiadhésif. Il suffit juste de mettre un petit peu d'huile d'olive, un peu de matière grasse et ça fonctionne très bien.
Bon, on va s'interroger sur cette façon pour nos gouvernants finalement de avec des études scientifiques qui ont l'air assez claires de cette difficulté parce qu'il y a les problématiques d'emploi et autres. On va se poser toutes ces questions après le fil info 20h50. Stéphane Milhomme.
Dans l'Essonne, un adolescent de 15 ans a été tabassé cet après-midi à la sortie de son collège. Son pronostic vital est engagé. L'agression par plusieurs personnes s'est déroulée alors qu'il sortait du collège Les Sablons de Viry-Châtillon. Le collégien a été laissé pour mort sur le trottoir. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Face au génocide au Rwanda, reconnaître ce que la France aurait dû faire est une reconnaissance extrêmement importante. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, l'assure sur France Info à quelques jours des 30 ans de ce massacre. massacre dans l'État africain. Emmanuel Macron le précisera ce week-end dans une vidéo. La France aurait pu arrêter ce génocide, mais elle n'en a pas eu la volonté. Jonas Vingegaard, victime de fractures à une clavicule et aux côtes, c'est son équipe qui l'annonce après la grosse chute collective cet après-midi sur le Tour du Pays Basque. Les deux autres favoris sont également hospitalisés, Evenepoel et Roglic. Et puis le corps de Rafael Nadal ne veut décidément rien entendre. Le joueur de tennis espagnol annonce aujourd'hui qu'il ne participera pas au Masters 1000 de Monte Carlo qui débute le week-end prochain. La grande question maintenant est de savoir s'il sera en forme pour Roland Garros fin mai, un tournoi qu'il a déjà remporté à 14 reprises.
France Info.
20h-21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Nicolas Mastuc du Point et la Paul Barcelone pour France Info, Bruno Cotresse pour le CEVIPOF et Gaël Fortin, docteur en cancérologie et vulgarisateur scientifique. Les informés, Roland Lescure devant les députés a tenté d'en faire un débat pour ou contre l'industrie. Là où d'autres l'auraient, enfin en tout cas les écologistes, c'était pour ou contre la santé et l'environnement, Nicolas Mastuc.
Oui, ben on voit bien qu'on hésite entre une écologie du déni, en gros, ne faisons rien parce qu'il n'y a pas de problème, et puis une écologie contrainte que Marine Le Pen appelle l'écologie punitive. Et les gouvernants, leur devoir, je pense, c'est de trouver le juste milieu entre des intérêts contradictoires et temporellement différents, entre maintenant et puis les générations futures. Je pense que le Roland Lescure incarne bien finalement la politique d'Emmanuel Macron en matière d'écologie, sur laquelle il a beaucoup reculé. On n'a pas le temps d'évoquer tous ces renoncements, mais il y en a eu un certain nombre pour des raisons qui tiennent à la fois aux difficultés économiques de l'Europe, à la politique, la montée de l'extrême droite qui fait campagne contre l'écologie punitive.
Et puis les emplois, quoi. Quand on sait bien manifester les emplois, avant le débat, voilà, en disant 3000 emplois en danger.
C'est une vision économiste de l'écologie, le concept de croissance verte. Oui, l'écologie à condition que ça crée des filières, que ça maintienne, ou en tout cas qu'une industrie se substitue à une autre. Et on n'est pas dans la décroissance, on est dans la croissance verte. Ouais. Malheureusement, cette politique que l'on peut comprendre, coûtera beaucoup plus cher dans un horizon lointain.
Non, mais en termes sanitaires, vous voulez dire, notamment.
En termes écologiques.
Écologiques et de santé.
Et de santé publique, oui.
Vous y faisiez référence, Bérangère, mais il y a eu une manifestation hier de salariés de l'entreprise SEB, qui donc fabrique ses poêles Tefal, devant l'Assemblée nationale, ce qui était une forme de coup de pression. Et on voit bien la question qui s'est posée pour Roland Lescure, qui était le ministre au banc aujourd'hui à l'Assemblée sur cette proposition de loi écologiste. Est-ce qu'il faut sacrifier la santé des Français au profit de sauver des emplois industriels? C'est un peu ça, la question qui s'est posé, ou en tout cas c'est le débat qui s'inscrit en lame de fond. Et évidemment l'argument de Roland Lescure, c'est de dire sauvons des emplois, 3000 emplois menacés, c'est son fonds de commerce, c'est le fonds de commerce et l'argumentaire du gouvernement aujourd'hui.
Bruno Cotresse, est-ce qu'il faut se résigner à ce qu'un gouvernement arbitre de cette façon, avec tous les enjeux juste qu'on décrit? Que dit le chercheur du CEVIPOF?
Non, certainement pas. Je trouve qu'il faut au contraire que les gouvernements progressent davantage dans la prise en compte des données de la recherche scientifique. Et au fond, c'est une mission même fondamentale du gouvernement qui est de faire connaître au public l'état des connaissances scientifiques. Parfois, et même souvent, l'état de la connaissance scientifique n'est pas complètement figé. C'est même l'essence même de la recherche scientifique de ne pas être fondamentalement figé. Mais c'est fondamental que le gouvernement prenne vraiment en considération le point de vue de la recherche et des chercheurs qui, de ce point de vue-là, disent des choses extrêmement claires. Mmh. Il y a eu une tribune de scientifiques qui a été publiée dans le journal Le Monde et qui en appelait à ce que l'ensemble de ces PFAS ne soit regroupé que dans une seule catégorie, qu'on arrête la distinction entre les monos et les polymères, et en disant, ben voilà, il y a la question des polymères, il ne faut pas les exclure, au contraire, il faut les inclure dans la nouvelle législation, dans une meilleure régulation, voire dans une interdiction. Il y a des sites, effectivement, qui ont plein d'emplois. Il se trouve que pour des raisons familiales, je connais très bien la petite commune de Rumi, en Haute-Savoie, qui est au cœur, au fond, de ça. Il y a beaucoup d'emplois de l'usine ex-Tefal-Seb, qui s'appelle Seb, qui est un très gros employeur de cette commune. Contrairement à ses deux voisines, Aix-les-Bains et Annecy, elle a pas de lac, elle a un plan d'eau. Ce plan d'eau, moi, je m'y suis baigné.
Voilà.
Maintenant, je sais que c'était dans de l'eau pifacée, comme on dit.
Pifacée.
Voilà, sans aucun doute, ça, c'est pas top, on va dire tout ça. Donc effectivement, il est du devoir des politiques de tenir davantage compte de l'état des connaissances scientifiques.
Le mot de la fin pour vous, Gaël Fortin, est-ce qu'il faut se résigner, même question, à ce qu'un gouvernement, avec tous les enjeux qu'il a, arbitre souvent de cette façon? Je ne sais pas si vous les aviez en face de vous, votre argument massue, ce serait quoi?
C'est qu'il y a un consensus scientifique et que le consensus scientifique dit que les PFAS sont dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. Et l'État et le gouvernement se doivent de protéger ses concitoyens et concitoyennes. Et donc, dans ce cas-là, de légiférer pour les protéger en interdisant ces composés.
Les 3000 emplois, ils sont sauvables avec, c'est ça aussi que vous dites, c'est que c'est avec des produits de substitution et en lançant la transition, en fait. Ça, c'est une volonté politique.
Oui, complètement. Oui, effectivement. En fait, et en réalité, ces 3000 emplois, ils sont pas réellement menacés. Il s'agit juste d'une transition, comme il y en a dans plein de secteurs et comme il y en a, par exemple, dans le cas de la transition énergétique écologique. C'est simplement changer la façon dont les produits sont conçus et ça veut pas dire supprimer 3000 emplois.
Il y en a eu dans quoi? Je crois dans les cosmétiques, les PFAS, on a réussi à s'en passer déjà dans plusieurs secteurs. Dans quoi?
Il y en a en fait dans de très très nombreux secteurs. Il y en a dans le BTP, il y en a dans le médical, il y en a dans les emballages, il y en a dans les cosmétiques et dans plein de secteurs. Ces transitions, elles sont déjà en cours pour substituer avec d'autres composés qui sont moins ou pas toxiques.
Merci beaucoup Gaël Fortin, docteur en cancérologie, vulgarisateur scientifique. Un coup d'œil sur la une du Point, Nicolas Bastuc.
Oui, une enquête saisissante racontée par Kamel Daoud sur les esclaves sexuels de Daouch, des témoignages proprement... hallucinant.
Les esclaves sexuels de Daesh. Merci à tous les trois. Merci Paul Barcelone, merci Bruno Cotresse. Demain, pas d'informé du matin. Vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro de Demain l'Europe avec cette fois la candidate écologiste aux européennes Marie Toussaint. Ce sera de 8h30 à 9h30. Nous, on sera là à 20h. Bonne soirée.